grand dialogue.
Sigikafoba.
Edowani wa makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiru.
Halud Mouni.
Chenibiri. Sigikafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.
Madame, Monsieur, bonsoir. Nous ne cesserons jamais de dire merci à nos invités, surtout aux journalistes qui nous rejoignent tous les vendredis pour le Forum de la presse. Nous sommes donc vendredi 19 juin 2015. Merci de nous recevoir chez vous. Trois thèmes comme d'habitude, la signature du 20 juin de l'accord de paix donc par l'ACMA, la coordination des mouvements armés de l'Azawad. Nous allons parler dans la deuxième partie des engrais frelatés, de l'engrais frelaté donc qui défraient donc l'acronyme. Le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, je dirais, était devant les députés hier pour s'expliquer le ramadan. Le mois du ramadan a commencé depuis hier. Nous sommes avec trois invités, Mamdjara Diop du journal du Mali.com, Yuba Konate du Zénith Balai. Nous aurons en ligne Bandjougou Danté depuis Ségou de la radio au Djamana. Je suis Famoussa Sidibé. Nous vous direz, est à la technique. Studio Tamani. Le premier thème, plus rien ne doit donc normalement empêcher la signature de l'accord de paix par la rébellion à Bamako demain samedi 20 juin. Le gouvernement a levé les mandats d'arrêt lancés durant la transition et qui visaient des responsables de la rébellion. Autre fait marquant, l'engagement des groupes armés donc de la plateforme de se retirer de la ville de Menaka. Alors nous allons voir avec vous, Yuba, est-ce que ce rendez-vous du 20 juin sera respecté par l'ACMA?
Merci donc au studio Tamani une fois de plus de nous associer au débat de la semaine qui nous permet de donner nos différents points de vue sur l'évolution de l'actualité dans notre pays. Moi je crois que oui, je crois que la date du 20 va être retenue puisque tous les acteurs disent qu'ils sont engagés. La CMA a déjà, mes informations sont bien fondées, il y a une partie même déjà de cette délégation qui est arrivée à Bamako. Il y a une autre partie qui est attendue. Et la plateforme, justement, s'est retirée de Menaka à la dernière minute. Elle a dit clairement que c'est pour donner une chance à la signature de demain. Le gouvernement malien est parti, est partant. Les Nations Unies sont partants. Donc, moi, je crois que la signature de demain sera effective maintenant. Est-ce que, à partir de cette signature de demain, tous les problèmes sont réglés? Je ne pense pas.
Mam.
Oui, moi je note que effectivement il y a une avancée dans le processus. C'est vrai que ce qu'il faut noter, c'est quand même que la CMA a imposé son timing, son agenda à la communauté internationale et au Mali. Donc logiquement, ils devraient être là demain. Ils l'ont fait savoir. Maintenant, après la signature, même si aujourd'hui on a l'annonce de la plateforme de se retirer de Menaka, vu les garanties données par la MINUSMA, la communauté internationale pour sécuriser les lieux, est-ce que sur le terrain tout est sous contrôle? C'est la question qui se pose.
Alors, ce rendez-vous, tout le monde reste donc attentif aux déclarations. L'engagement de Bilal Al-Sherif est jugé sincère de la part de la plateforme. Est-ce que dans cette situation, avec le retrait de la plateforme de Menaka, c'est la plateforme qui a perdu le plus?
Non, moi je ne pense pas. Je n'observe pas la chose de cette façon en termes de perte ou de gain. C'est-à-dire qu'il y a comme l'a dit ma consœur, il y a une avancée, elle est certaine, c'est sûr quoi. Mais est-ce que tous les problèmes sont réglés pour autant? Je ne pense pas. Mais je voudrais aussi rectifier un petit truc. Ma consœur a parlé de la CMA comme elle a imposé son calendrier. C'est-à-dire que quand nous voyons toute l'évolution de toute la logique et la stratégie de la CMA depuis que le début du processus, ou du moins depuis même le début de cette rébellion, nous voyons que la CMA est toujours arrivée à se mettre dans une position de victimisation. C'est-à-dire que les gens n'arrivent pas toujours à comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire là où, puisque le problème de fond, en fait, la rébellion, ils sont très intelligents. Elle opère de la sorte pour faire oublier les questions de fond. Au moment où on demande, on est toujours en train de se battre, est-ce que la CMA sera là, elle ne sera pas là? Mais la question essentielle, est-ce qu'elle est même légitime pour porter ce... Mais elle est arrivée à faire oublier ça depuis longtemps.
La légitimité sur le terrain.
La légitimité de la CMA elle-même, c'est ça la question de fond. De quel droit la CMA dispose pour, n'est-ce pas, se battre
pour parler au nom de la
pour
population,
pour parler au nom de toute la population du Nord. C'est des questions de fond qu'elle arrive tout le temps à faire oublier aux différents acteurs en se mettant toujours dans des positions de victime et en créant des faux débats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute la semaine, les gens sont en train de se battre. Toute l'intelligence est focalisée sur est-ce que la CMA va venir, est-ce qu'ils ne vont pas venir, est-ce qu'elle va venir. Mais que la CMA soit là, ce n'est pas une évolution en tant que telle. Mais elle arrive toujours à se mettre dans cette position. Et la contrepartie de cette histoire, c'est quoi? Ce qui dit que y a, tout, quand vous regardez tout le processus, il y a un problème, véritablement. Et il va falloir que dans l'avenir, après la signature de demain, qu'on commence à clarifier cette situation. Puisqu'il y a une situation, la plateforme, elle aussi, il faut qu'on en parle. La plateforme, c'est-à-dire qu'elle est dans une position où elle ne revendique absolument rien. Mais chaque fois qu'on va partager les gains des revendications, elle en est largement bénéficiaire. Ça, il faut qu'on en parle. De toute l'histoire des rébellions au Mali, des différentes rébellions au Mali, chaque fois qu'il y a accord de paix, les mouvements d'autodéfense qui ont toujours été, écoute, se sont toujours présentés comme étant des pro-gouvernements, ont aussi, n'est-ce pas, leur part de gains dans les signatures, dans les différentes signatures. Mais est-ce que si vous observez la chose de cette manière, ce n'est pas une manière, une participation, ne serait-ce que pas peut-être effective à la rébellion.
À la rébellion.
Parce que la plateforme ne pose jamais ces débats. Ou alors, si elle, la lutte de la plateforme, c'est de défendre les populations du Nord. Mais au moment de partager, non, on n'est pas concerné. Ça aussi, ça peut se faire. Ils peuvent agir de la sorte pour montrer aux gens que non, nous, ne sommes pas dans la logique de
donc
gagner
vous,
des
vous
places.
Vous pensez que la situation arrange également la plateforme?
Évidemment. Alors, et il va falloir que dans les jours à venir, à partir de la signature de demain, ou du moins, si les acteurs ont oublié cette dimension de la chose, il va falloir désormais qu'on l'intègre. Que les populations qui se réclament de la plateforme, c'est-à-dire les autochtones qui essentiellement composent la plateforme, disent non, nous battons pour défendre les populations, nos populations. Donc, pour ce qui est de partager les trucs, les postes, ouais, parce que nous sommes dans une logique aujourd'hui où l'actualité est très chaude. Chacun, on est là à dresser les listes qui va rentrer dans la fonction publique, qui va rentrer dans la douane. C'est le partage des gains.
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu Youba Konaté pour le forum de la presse. Aujourd'hui, c'est fait et vous êtes amplement édifié sur donc cette situation de Menaka. Alors, même la levée de mandat d'arrêt contre certains dirigeants des groupes rebelles, qu'est-ce que cela vous inspire?
Ben, écoutez, c'est pas la première fois qu'on prend ce genre de mesures entre guillemets de confiance. Je pense que c'est une manière de lâcher un peu du lest par rapport à ces groupes armés, mais il faut être très prudent parce qu'aujourd'hui, promettre de telle chose pourrait donner des ailes à la CMA, bien vrai qu'elle a imposé son agenda. Aujourd'hui, quand même, son influence est en train de se resserrer. Il y a toute la communauté internationale qui est là pour pousser à la signature. Je crois que de toute façon, ça pourrait d'une certaine façon encourager des éléments sur le terrain. Moi, c'est ce qui me fait peur, parce qu'aujourd'hui, même s'il y a ceux qui vont au dialogue, qui donnent des assurances, promettent qu'ils sont là pour la paix, comme ils l'avaient dit au moment de paraffer le 14, juste avant la signature du 15 mai. Je crois que c'était dans un communiqué de la CMA qui disait que c'était pour instaurer un climat de confiance. Le fait de lever comme ça ces mandats d'arrêt, bon, ça pourrait donner des ailes à certains éléments de la CMA. En plus, je pense que de toute façon, tout ne peut pas se dire. Dans ce genre de négociations, il y a des choses qui sont négociées en dessous, des garanties qui sont données à ces gens-là pour les amener à venir signer. Maintenant, la question qui va se poser, c'est vraiment, est-ce qu'à partir de cette signature du 20 juin, on peut considérer que le processus arrive à son terme, puisque le 15 mai, ça a été signé par le gouvernement, la plateforme et la communauté internationale. Maintenant, on parachève le processus avec la signature du 20 juin. Donc, c'est là véritablement que commence le processus de mise en œuvre de cet accord, même si au sein de la CMA et notamment au sein du MNLA, le porte-parole a dit il n'y a pas longtemps que ce n'est pas encore tout à fait ça, ce n'est pas leur revendication. Donc il faut s'attendre Il faut s'attendre à des levées de boucliers.
D'accord. Alors, nous allons retrouver Bandiougou Danté. Bandiougou, ce n'est pas un oubli, mais c'est tout simplement pour vous permettre de mieux préparer vos réponses. Bandiougou, cette situation de Menaka, nous allons voir cela avec vous, mais également, est-ce que la levée de mandat aujourd'hui contre les qui était lancée contre les groupes les dirigeants de groupes armés, est-ce que cette levée de mandat va permettre à ce que la justice se fasse?
Moussa, je vous remercie beaucoup. Vous me permettez d'abord d'apporter une précision. Bandiougou Danté est le directeur de la radio Sania, c'est aussi le président de l'Union des radios et télévisions libres du Mali.
Exactement.
Voilà bien. Donc vous me permettez aussi de saluer toute la communauté musulmane dans le cadre du Ramadan, plus particulièrement le monde de la radio. Pour répondre à votre question, moi je pense que la situation de Menaka est une situation assez délicate. Les uns et les autres doivent comprendre l'histoire récente de cette rébellion. On nous a mis dans une situation de fait avec la fabrication de la CMA après l'opération Serval. Parce qu'on a essayé par-ci par-là de constituer des groupes, mais la constitution de ces groupes-là devait être un tremplin aux négociations. Il fallait trouver des interlocuteurs au regard de tous ces mouvements qui étaient dans la zone. Maintenant, je ne sais pas sur quelle base la pression internationale qui a prévalu en a fait le choix de qui peut être éligible au dialogue ou pas, parce qu'on a vu des anciens terroristes rapidement reconvertis en ce qu'on peut appeler rebelles fréquentables. Bon, je pense que dans ces conditions, la CMA, dans sa situation actuelle, est une situation de fait qu'il faut savoir accepter dans un sens purement et simplement politique pour qu'on puisse quitter dans cette situation aujourd'hui. Situation dans laquelle des populations sont en train de souffrir. Maintenant, aux problèmes politiques, forcément des solutions politiques. C'est vrai, tout défenseur des droits humains peut être bouleversé par cette situation de levée des mandats d'arrêt, comme si ces mandats d'arrêt ont été lancés politiquement, mais ça devait avoir une couverture juridique. Mais si aujourd'hui, à la veille des négociations politiques, on procède à une levée politique de ces mandats, je pense que le citoyen lambda doit aller vers le sens de l'apaisement et comprendre que dirigeants et dirigés, ceux qui sont au sommet, ceux qui sont à la base, aujourd'hui nous avons tous un souci, c'est le souci de la quiétude, c'est le souci de la paix, c'est le souci de l'apaisement. Il faut apaiser et au moment opportun, ce qui doit être tiré au clair sera tiré au clair. Cela n'engage que moi.
D'accord.
Cela n'engage que moi.
Merci.
Mais si on veut gérer des questions politiques et des questions juridiques ensemble, on ne va pas avancer et on va jeter de l'huile sur le feu.
Merci beaucoup Bandiougou Danté, à la fois directeur de la radio Diamana de Ségou, mais également président... Radio Sania de Ségou, autant pour moi, et président donc de l'URTEL. Merci Bandiougou Danté. Alors Yuba, je voudrais vous entendre sur cette question de levée de mandat.
Oui, et comme moi, je pense que la levée des mandats est un impératif, c'est-à-dire que nous n'avons pas beaucoup de marge en la matière, il faut qu'on se dise.
Qui?
Les autorités maliennes, c'est clair que vous avez vu c'est tout récemment.
À partir de quand déjà?
À partir de
quand est-ce que le gouvernement malien n'a plus la main?
Depuis tout le temps. C'est-à-dire que nous n'avons pas beaucoup de marge de manœuvre en la matière. Ça, tout le monde le sait. On n'a même pas besoin d'être intelligent pour le comprendre. Mmh. Mais vous avez vu que la semaine dernière ou la semaine qui a suivi, on a recadré même le président de la République. Lors de la signature du 20 juin, la dernière signature, n'est-ce pas, le président de la République était...
Par qui?
Par la communauté internationale, ça se comprend.
À travers
et
qui?
Vous avez vu toutes les musulmans, les religieux qu'on a mobilisés. Tout le monde. Non, c'est clair. Le président de la République il a fait un discours qui a plu à tous les Maliens. Nous avons dans les grains, on a débattu, les gens disent voilà, c'est ça. Il faut ça.
La fermeté.
Il faut être ferme. Mais très vite, on est revenu à la triste réalité que ce n'est pas nous qui tenons les leviers. Très vite, on a compris. Et le président de la République lui-même est revenu sur les tribunes pour dire la MINUSMA n'est pas notre ennemi, il faut se faire avec ces gens, c'est nos amis, ils sont venus. Voilà. Donc on comprend clairement que même lui, il est tenu. Donc nous adhérons. Puisque un temps soit passé, ça peut nous permettre avec un recul de nous repositionner. Parce que tout ce qui nous arrive, c'est nous-mêmes. Ça, il ne faut pas qu'on se leurre. Tout ce qui nous arrive, c'est nous-mêmes. Donc maintenant, si cette signature du vin là, et moi je suis convaincu, ça peut nous donner un répit. Autant, nous aurons le répit, faudra qu'on en profite. Ça va nous donner un répit. C'est deux ans, trois ans, je ne sais pas. Ça va nous donner un répit. Et c'est ce répit, si nous n'arrivons pas à l'utiliser comme il le faut, ça, ce serait autre chose. Mais je reviens une fois de plus encore sur la victimisation de la CMA. Il faut que les gens comprennent ça. C'est-à-dire que la CMA est en avance sur nous. Elle arrive toujours à faire oublier les questions essentielles et à obliger les gens à se mettre, à se débattre des faux problèmes. Est-ce que la CMA sera là? Elle ne sera pas là. Est-ce qu'elle va signer? Elle ne signera pas. On est toujours dans... Mais ça c'est quoi? Ça ne représente absolument rien.
Maman veut réagir.
Oui?
Non, je pense avant que de toute façon, faux problème ou pas, aujourd'hui, tout le monde est devant le fait accompli. Aujourd'hui, on va vers l'applicabilité de cet accord. C'est ça qui, aujourd'hui, va véritablement entrer en jeu. Puisque je crois savoir que, de toute façon, l'armée malienne va pouvoir sécuriser Menaka. Du fait du retrait du Gatia. Donc aujourd'hui, il faut que sur le terrain, l'armée prenne sa place en fait. C'est-à-dire que même si la MINUSMA est là, parce que la question c'est est-ce que la MINUSMA est capable de sécuriser toute seule cette zone, les populations sont inquiètes. Donc aujourd'hui, tout va se jouer sur le terrain, tout va se faire sur le terrain. Et c'est là que justement cet accord il rentre en application. On ne peut pas dire que les choses, la CMA va venir avec des faux débats. Ce sera même plus possible. Il pourra même plus. C'est-à-dire que ceux qui disent. Ceux qui disent la CMA sera là, sera pas là, non. Ça, c'est les médias qui entraînent une espèce de polémique à chaque
déjà
fois.
Déjà, des photos circulent.
Je voulais ajouter, si vous permettez. C'est-à-dire que je suis entièrement d'accord avec madame. Mais il y a un autre aspect de la chose.
Je pense qu'on a été assez habitué justement à leur jeu, au jeu qu'ils ont joué durant tout ce processus de négociation.
Je suis sûr que 45 minutes ne vont pas suffire.
Non, je suis d'accord. C'est-à-dire que je voulais juste ajouter que le repas que nous allons avoir. Pendant les deux ans. Puisque moi, j'ai été agréablement surpris de voir que ça fait la dernière attaque que nous avons eue, du moins la dernière situation de guerre qu'on a eue, c'était à Kidal, lors de la visite du Premier ministre. Mais avant ça, de la signature du cessez-le-feu jusqu'à cette période et l'intermède qui a précédé, nous n'avons pratiquement pas fait la guerre. Nous avons eu presque deux ans pendant le régime, un an et poussière en tout cas, pendant le régime du président Ibrahim Boubacar Keïta. Pour voir que, sans que l'armée ne soit dans une situation de belligérance. Donc, on ne peut pas reconstruire une armée en deux ans, trois ans, c'est clair. Mais les initiatives qui ont été prises, il faut qu'on en parle.
Lesquelles?
Quand vous prenez, par exemple, de l'équipement de l'armée. Moi, je suis désolé, il faut qu'on en parle. Mais au moment où nous sommes dans un pays en guerre, une armée détruite, tout, les gars, ils vont payer des tenues, des souquettes, mais les souquettes, les tenues, les chaussures pouvaient attendre. On a besoin d'armes et de munitions. Non, pas de souquettes. Les gens, est-ce qu'il y avait urgence à payer des tenues? Je suis sûr que quand vous voyez les militaires dans des très beaux tenues, c'est très joli. Je suis d'accord. Mais ce n'était pas une urgence, ça pouvait attendre.
Le ministère de la Défense annonce, en plus de ce que vous venez de citer, l'acquisition de 6 avions
de
guerre. Alors nous allons observer quelques secondes de pause avant de poursuivre avec les engrais frelatés.
Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Studio Tamani, c'est aussi notre site web www.studiotamani.org. Alors, voici un thème qui va peut-être intéresser plus Bandiku Danté que nous autres ici à Bamako. Bandiku, l'affaire des engrais frelatés, comment est-ce que cette affaire est ressentie à Ségou?
Cette affaire est ressentie par tout le peuple malien parce que c'est un crime commis contre le peuple malien. On ne peut pas, moi je qualifie ce fait-là de crime contre le peuple malien. On ne peut pas se permettre d'amener des produits dangereux, non seulement pour la production, mais également pour la santé des populations, au nom de l'argent. Franchement, c'est inacceptable et c'est inadmissible. Par rapport à cette question quand même, s'il y a des gens à sanctionner, l'État doit prendre toutes ses responsabilités, sans état d'âme et sans considération inutile.
Alors, dans la zone office du Niger, on estime que ces engrais sont déjà parvenus aux paysans. Comment est-ce que la situation se passe sur le terrain?
Bon, honnêtement, j'étais à Bamako depuis plusieurs jours déjà. Je suis rentré seulement hier soir. Personnellement, je n'ai pas mené d'enquête pour savoir comment la situation s'est passée, mais un tel produit sur des champs de l'Office du Niger est un danger.
Alors, en estimant que ces produits sont déjà parvenus aux paysans, comment faire aujourd'hui pour revenir en arrière et quelle incidence cela pourrait avoir sur leur calendrier?
Moi, je pense que les techniciens de l'agriculture sauront prendre les dispositions qui s'imposent et l'État aussi de prendre les dispositions en termes de sanctions et de justice qui s'imposent par rapport à ça. Maintenant, s'il y a des possibilités d'empêcher l'utilisation de ce qui n'a pas été déjà utilisé ou d'anéantir ce qui a été déjà utilisé, l'État, de toute façon, a sa responsabilité qui se trouve engagée dans ce crime-là.
Merci beaucoup, Bandjougou Danté, président de l'URTEL et président et directeur de la radio Sania de Ségou. Alors, l'affaire des engrais frelatés a conduit le ministre du Développement Rural devant les députés pour s'expliquer. Mam Diala Diop, est-ce que le consensus au sein de la majorité est...
Bon, est-ce que consensus au sein de la majorité, je crois que l'interpellation hier du ministère État n'a pas vraiment convaincu, sans vouloir attaquer. Je pense que on avait une espèce de double discours, le député qui l'a interpellé de l'ADEMA qui revenait à la charge et le ministre Tereta qui se défendait en disant il n'y a pas d'engrais frelatés, nous avons fait des analyses, tel nombre d'échantillons a été analysé, et l'autre qui disait voilà, vous avez abandonné le monde paysan. Donc on a un double discours. Les uns qui nient, les autres qui accusent. Donc finalement, dans tout ça, il y a ces engrais qui sont là, dont on dit qu'une grosse quantité est de mauvaise...
40%. Hein,
40% est toxique et pourrait avoir des conséquences sur cette fameuse campagne agricole. Maintenant, aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a les preuves de ça? C'est-à-dire qu'on a sorti toutes les lettres, tout ce qui est tout le procédé de passation du marché. Mais il faudrait qu'on puisse avoir accès à ces analyses-là, qu'on sache vraiment quelle sorte d'engrais c'est, parce que c'est quand même inquiétant. On n'avait pas besoin d'une telle affaire. C'est-à-dire que ça arrive à un moment, on a eu l'affaire de l'avion, l'affaire des armements. On se dit, mais finalement, qu'est-ce qui se passe dans ce gouvernement tout le temps? Je veux dire, il n'y a pas de fumée sans feu, sans accuser quoi que ce soit. Ni qui que ce soit. Aujourd'hui, il faut qu'on ait les preuves concrètes. Il faut qu'on ait quand même accès à ces résultats dont se défend tellement le gouvernement en disant, nous avons analysé plus de 164 échantillons. Il faut qu'on puisse avoir accès pour savoir. Parce que là, il y a un danger quand même pour la population.
Merci beaucoup, Mme Diala Diop. Alors, Youba Kounaté, ministre du Développement Rural, ce n'est pas n'importe qui, c'est quand même la deuxième personnalité du gouvernement, si je ne m'abuse, qui est devant les députés. Qu'est-ce que cela peut faire sur le consensus de la majorité?
Oui. D'abord, l'exercice était démocratique, nous avons apprécié. C'est l'exercice était démocratique. Le fait de l'interpellation est démocratique. À ma part, ça s'arrête là. Et mais moi, je suis un peu étonné que les gens s'activent à crier au scandale. Quoi. Mais de quoi on crie là? Moi, je ne comprends pas, très sincèrement.
Engrais frelatés.
Mais qu'est-ce qui n'est pas prélaté dans ce pays-là? C'est ça le problème. Parce que oui, c'est les gens de l'agriculture qui sont aujourd'hui sur la sellette parce qu'on a découvert des failles chez eux. Mais à l'école, c'est partout comme ça. Donc, si vous êtes... C'est aujourd'hui, ils sont dans des beaux draps, c'est vrai. Malgré comment dirais-je, la détermination du ministre, non, il y a eu un problème. Il faudrait peut-être que les gens aient aussi cette petite humilité pour dire non, il y a peut-être une faute. On va essayer de réparer. Non, mais Tereta est resté dans une position carrément. Non, il dit absolument rien. Non,
de victimisation,
non.
Selon vous?
C'est peut-être ça, mais c'est très compliqué. Il nie carrément. C'est terrible. C'est les services techniques, les enquêtes parallèles, même la Côte d'Ivoire a même parlé dans cette histoire-là. Avec tout ça, on sait qu'il y a quelque chose. Mais il faudrait peut-être qu'il accepte de nous dire, oui, il y a une petite faute. C'est-à-dire que les gens sont en train d'amplifier, mais la petite faute, c'est là. On est en train de réparer. Mais non, lui, dit carrément qu'il n'y a rien. Mais alors, d'où est sortie l'information que l'engrais est frelaté à 40%? Moi, j'ai une fois vu le directeur ou le directeur national adjoint de l'IER qui a même fait les échantillons et qui disait qu'ils ont fait les tests 40%. Mais non! Les techniciens ont dit qu'il y a 40% du produit est frelaté. Le ministre s'entête à dire qu'il n'y a absolument rien. Il y a un problème. Et donc, il va falloir vraiment que... Mais pour autant, moi, je ne m'étonne pas jusqu'à un certain niveau. Parce que dans ces pays, c'est aujourd'hui l'engrais qui est sur la sellette. On a découvert des failles dans l'engrais. Mais qu'est-ce qui n'est pas frelaté ici? Je le maintiens.
Alors, nous allons partir à Ségou, retrouver Bandjougou Danté, directeur de la radio Sania et président de l'URTEL. Bandjougou, aujourd'hui, ces engrais sont distribués aux populations. Vous avez certainement suivi l'interpellation du ministre Téréta devant l'Assemblée. Quelle incidence politique est-ce que cela pourrait avoir au sein de la majorité?
Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire, la question n'est pas de savoir si l'engrais est frelaté ou pas. La question aujourd'hui est de savoir qui a fait quoi et qui faire contre qui. Moi, je crois. Parce que qui a fait quoi? Dire qu'il n'y a rien, moi, je pense qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Tout le monde le sait. Maintenant, il ne s'agit pas de défendre l'indéfendable. Maintenant, l'incidence politique de cette situation par rapport à la majorité, ce n'est pas une question de minorité ou de majorité, c'est une question qui engage la responsabilité du numéro un des Maliens, le président de la République. Parce que, d'abord, quand l'engrais est frelaté, non seulement c'est dangereux pour les récoltes, c'est aussi dangereux pour les populations. Mmh. Donc, dans ce cas, ce n'est pas, on ne constitue pas une majorité contre un peuple, on constitue une majorité pour un peuple. Donc, si c'est quelques individus qui sont à la base de cette situation, c'est au président de la République de prendre toutes ses responsabilités, traduire qui doit être traduit. Donc, ce n'est pas un problème de la majorité, mais c'est plutôt un problème des populations maliennes exposées à un danger.
Merci beaucoup, Bandjougou Danté. Alors, Mam Diara Diop, espérer un procès ou bien même une mise en cause des responsables, est-ce que cela ne relève pas de l'utopie quand on voit les différents scandales qui se sont passés et il n'y a rien eu par rapport à cela?
Pour espérer un procès ou je ne sais pas, déjà il faudrait qu'on sache qui sont les coupables. Or jusqu'ici on pointe du doigt beaucoup de personnes, tantôt on pointe un producteur d'engrais très connu, tantôt pour ne pas citer, tantôt on pointe la PECAM. Bon, c'est difficile. Moi je pense qu'on est, comme vous disiez tout à l'heure, la deuxième personnalité du gouvernement. Non, c'est un, je dirais que c'est la deuxième personnalité du RPM peut-être. Mais on a le sentiment vraiment qu'à chaque fois qu'il y a des affaires qui sortent, c'est toujours, il n'en ressortira rien. Malheureusement, même s'il y a eu faute, c'est toujours étouffé. Ça se voit avec tout ce qui s'est passé, l'avion, les armements militaires et aujourd'hui les engrais. On le sait quand même, ces gens-là sont tout puissants. Donc, un procès, je ne sais pas, sauf si... D'autant, c'est bizarre parce que je crois que le ministre aussi a parlé de machination, un peu de gens qui seraient contre lui, d'opérateurs économiques. Bon, c'est très compliqué, c'est difficile de dire qui a fait quoi, bon, même si des lettres sont là. Et même nous, journalistes, notre travail, en essayant d'appeler, d'avoir des gens...
Très souvent, très difficile
d'avoir les réponses, de mener, en fait, c'est à la presse aujourd'hui de mener une vraie enquête sur cette histoire d'engrais et de dénoncer. Maintenant, côté justice, je ne sais pas si on aura un procès, ça m'étonnerait. Je pense qu'au bout d'un moment, cette histoire va se tasser.
Nous l'avons appris à notre dépens, nous avons tenté de réaliser un débat sur la question, mais aucun interlocuteur n'a donc voulu faire le déplacement pour venir débattre donc de cette question d'engrais frelaté. Alors, Yuba, je me retourne vers vous. Est-ce qu'on peut avoir des sanctions? Est-ce qu'on peut attendre des sanctions?
Pour avoir des sanctions, il faut avoir la réalité des choses d'abord. Mais madame le disait tout de suite, on ne sait même pas ce qui se passe. Mais c'est très simple. Instituons une commission d'enquête. Et le ministre dit qu'il y a une machination, les autres disent. Mais ils n'ont pas parlementaire. Mais une commission d'enquête indépendante, composée de journalistes, de policiers, des trucs, oui, indépendante. Et on va faire c'est vite fait, les offres de trucs sont là, tous les acteurs sont connus, en dix jours c'est fini. La commission d'enquête donne son rapport. En 10 jours c'est fini, c'est pas compliqué, tous les acteurs sont là, les spécialistes sont là, on a l'engrais encore là, on peut avoir des incendies et faire les... Non, c'est pas, si les gens, les uns et les autres sont de bonne foi, instituons une commission d'enquête indépendante et en 10 jours, elle va donner, comment dirais-je, son rapport, les résultats, et on saura qui a fait quoi. Là, s'il y a machination, s'il y a, comment dirais-je, tentative de manipulation, de quoi, on le saura. La commission, une commission crédible va le dire, et les gens, tout le monde va être à l'aise. Et pour une première fois, on va dire, ah oui, c'est comme ça marche dans les autres pays, pourquoi on n'en fait pas de même?
Alors, nous allons observer quelques secondes de pause avant de boucler la partie avec ce dernier thème, le Ramadan.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux, mais également sur notre site web où vous pourrez retrouver cette émission ou la réécouter si vous voulez en rediffusion et sur nos programmes des réseaux sociaux également, sur notre page Facebook et notre compte Twitter. Vous pouvez réagir à nos informations. Nous sommes donc à la troisième partie de cette émission consacrée au mois de Ramadan. Alors, le stock national est estimé aujourd'hui à 44 570 tonnes de riz, 105 000 tonnes de sucre et 6 000 de farine et de grandes quantités d'autres produits de première nécessité. Alors cela n'empêche pas la flambée des prix. Des spéculations sont donc constatées de part et d'autre. Est-ce que cela est devenu finalement le quotidien des Maliens, Mme Diarra Diop?
Bon, on constate de toute façon qu'à chaque Ramadan et bien avant le début du Ramadan, les prix commencent à monter. Déjà la semaine dernière, certains produits avaient déjà pris l'ascenseur. Ah. Et là, ils ont carrément atteint le sommet. Mais la question est-ce que la DNCC joue son rôle? Est-ce que le gouvernement joue son rôle de régulateur des prix? Mais il semble qu'il n'y ait aucun contrôle parce que chacun fait ce qu'il veut et chacun fixe les prix comme il veut. Le Ramadan, ça profite toujours à des gens, on le sait.
Alors, la Direction nationale du commerce et de la concurrence, comment est-ce que elle s'investit sur le terrain à Ségou, au Banyougou Danté?
Bon, comme je l'ai dit, mon ami, je viens de rentrer à Ségou seulement il y a soir à 22h. Habituellement, il y a une délégation composée de l'administration, notamment des gouverneurs, des organisations de la société civile, des acteurs, qui vont pour non seulement contrôler l'existence du stock, et en même temps, ils contrôlent également les prix. Donc, je pense que dans les tout prochains jours, nous allons essayer de nous atteler à vérifier effectivement comment les choses se passent, comme le carême vient de commencer. Donc, normalement, au regard des garanties et des assurances données ça et là, on ne doit pas assister à une flambée des prix. On ne devrait pas assister à une flambée des prix.
Merci beaucoup, Bandjou Danté. Alors, malgré la disponibilité du stock, on voit des spéculations, notamment sur l'oignon Yuba. Est-ce que cela est normal et à qui la faute?
Sur l'oignon, c'est-à-dire que quand je venais juste de... Avant, 10 minutes avant que je prenne... je n'arrive ici, ma femme est revenue tout juste du marché. Elle est revenue, elle est tout énervée. Elle me dit, oui, voilà. Quand on vous dit, vous ne comprenez pas. Moi, je viens du marché tout de suite. C'est-à-dire qu'hier, elle a payé, elle me dit, hein, très sincèrement, il y a 30, juste 40 minutes, quoi. Elle me dit, elle a payé hier l'oignon à 450. Aujourd'hui, elle a payé à 700. Et que les gens sont en train de murmurer dans le marché là-bas qu'elle a vu des groupes de femmes qui disaient que demain, ça risque d'atteindre les 800 ou 900.
Bon. Le kilo.
Bon, les kilos, je vous le jure, très sincèrement. Et elle a payé un concombre, comment on appelle ça, concombre, c'est ça?
Un concombre.
À 200 francs. Et elle m'a montré un tel truc, 200 francs. Elle voulait payer, elle est partie avec l'idée de payer deux. Et finalement, elle s'est retrouvée. Bon, ça c'est des trucs, est-ce que vraiment, moi, est-ce qu'un État peut jouer sur tout ça? Ça c'est aussi très compliqué ici.
C'est très compliqué avec l'informel.
Voilà, c'est l'informel, les gens. Les gens, de façon, ils ne sont même pas assez conscients. On se dit musulmans, tout. Alors que la religion a été quand même s'est prononcée sur ces questions-là. Bon, on complique, c'est très compliqué.
C'est aussi, enfin, je veux dire, je ne sais pas, parce qu'il y a aussi cette question des stocks. Logiquement, si les stocks sont là, les prix ne devraient pas.
Oui, mais si les produits, comment dirais-je. Comme le sucre, le truc. Moi, je pense que les prix sont un peu maîtrisés.
Maîtrisés.
Maintenant, pour ce qui est dans les marchés, l'oignon, les concombres et autres, là, c'est très compliqué.
Et même alors, les vendeurs, ceux qui sont dans
et
les
c'est là
aussi.
Que la spéculation est très dangereuse, puisqu'elle est vraiment hors contrôle.
Hors contrôle, oui. Même les fruits, j'aurais aussi cité les fruits et les bananes qui sont à 600, 700.
Voilà, des trucs qui sont vraiment chez nous, quoi.
Alors, Banyougou, on aimerait quand même de temps en temps que vous interveniez comme Yuba le fait. Alors, Banyougou, une question. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État lui-même n'est pas hors jeu en focalisant ses efforts uniquement sur les produits céréaliers et en oubliant les produits maraîchers?
Bon. Moi, je pense que en ce qui concerne les produits maraîchers, logiquement, l'on doit... des prix. Parce que le problème numéro un, c'est quoi? Il faut voir les différents produits que les uns et les autres utilisent et les marchés que les gens font. C'est vraiment important. les marchés fréquentés et les produits utilisés. L'oignon dont on parle, c'est produit d'Amazon ici à Ségou. Il y a une partie de l'oignon aussi qui vient du Sénégal, n'est-ce pas? Donc, maintenant, par rapport au prix, celui qui va dans un, entre guillemets, supermarché pour acheter ses oignons et celui qui va au marché de Médinécoura pour acheter ses oignons, c'est pas évident que vous ayez la chose au même prix. Donc, il faut vérifier plusieurs marchés et essayer de voir la qualité aussi du produit sollicité, c'est ce qui peut souvent créer des différences. Sinon, je pense qu'aujourd'hui, les prix pourraient être maîtrisés au regard du stock disponible.
D'accord. Et alors, juste une rectification. Cette question de marché, nous l'avons élucidée hier avec le représentant du syndicat des commerçants détaillants qui dit que c'est bien des produits locaux qui subissent des spéculations. Alors, Mme Diarra Diop, je reviens avant juste de vous donner la parole, Yuba. Je reviens sur cette question. Est-ce que l'État lui-même n'est pas hors jeu en focalisant ses efforts sur les produits céréaliers, par exemple, notamment le sucre, la farine et le riz, les maraîchers?
Est-ce que oui, c'est peut-être pas hors jeu, mais en tout cas, il y a un manque de contrôle évident sur toute la chaîne, notamment, comme vous dites, les produits maraîchers, parce que on considère seulement tous ces produits-là, ces produits qui sont le lait, le sucre, alors qu'il y a plein d'autres produits.
Surtout l'oignon.
Oui, l'oignon qui est utilisé pour et même l'huile, d'autres condiments, et même le mil. Enfin, voilà. Donc, je pense que il faudrait peut-être revoir ça.
Yuba.
Oui, je voulais juste ajouter aussi qu'effectivement, parce que quand on a l'impression, les gens pensent que ce n'est pas de l'argent. Quand vous prenez les kilos, c'est le kilo de d'oignon qui augmente d'un seul coup de 100 francs. Mais vous imaginez combien de kilos nous consommons par jour et par mois. Ça fait énormément d'argent. Et il y a combien de produits comme l'oignon qui augmentent de la même manière et en même temps. C'est ça le problème. Et je voulais dire à Banyugo, au passage, je lui ai dit bonsoir, on est de la même promotion 95-99 de l'ENSUP. Voilà, et le marché dont je vous parle, c'est le marché de Kalabankoro, donc un marché populaire. Mmh. C'est pas un supermarché.
Banyugo, une réaction?
Oui, bon, je comprends très bien mes amitiés à lui aussi. Ce que j'aimerais dire par rapport à ces prix-là, en réalité, les populations aussi ont un rôle important à jouer. Sinon, je pense que l'on peut aller vers un certain abandon de ceux qui vont tenter de vendre cher. Parce que si un produit est cher, le prix va augmenter. Mais dès l'instant que le produit est disponible et que les prix augmentent, ça devient un paradoxe en ce moment. Donc, je crois qu'il va falloir essayer de faire une enquête sur différents marchés. Et maintenant, nous autres médias aussi devons aider les marchés qui livrent des bons produits à des prix acceptables ou à des prix établis. Mieux vaut aller chez ces gens et laisser effectivement ceux qui veulent profiter du carême pour devenir millionnaire.
Je pense qu'il y a quelqu'un qui a sillonné pratiquement tous les marchés et il est là, il veut réagir.
Oui, non, pas du tout. D'accord. C'est que je voulais juste dire que ne serait-ce que des campagnes quand même de sensibilisation qu'on fait pour d'autres situations. Parce que moi, je n'ai rien vu dans ce sens-là.
Oui.
Qu'on engage quand même des campagnes de communication, que des gens qui sont habilités, les religieux et autres, prennent des initiatives et qui commencent à parler aux gens, au moins qu'on sache qu'il y a des problèmes comme ça.
En fait, c'est étonnant parce que d'habitude, il y a des campagnes à la télé. Voilà. Et c'est vrai que cette année, on n'a rien vu.
Voilà.
On n'a même pas senti le premier jour du ramadan. Voilà. On se disait, mais c'est le ramadan. Voilà. Donc, c'est vrai que ça a manqué. Les campagnes de communication ont manqué sur
cette cherté-là.
Et c'est dommage quand même de voir quand même que bon, c'est le mois sacré du ramadan et qu'il y a des commerçants quand même qui en profitent. Alors que justement, la religion est contre la spéculation, l'intérêt usuraire, donc c'est un peu dommage, quoi. Il faudrait que certains commerçants se remettent en question.
Alors, Bandoukou, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des faits qui peuvent aujourd'hui confirmer cette flambée des prix ici à Bamako, notamment à Niono? Est-ce que les choses ont changé pour qu'il y ait flambée de prix, par exemple, de l'oignon à Bamako?
Bon, de toute façon, moi, je pense que ce qui explique l'augmentation du prix l'explique par les frais de transport, l'explique souvent par les tracasseries des policiers. Bon, je pense que ce mois de carême devrait quand même être mis à profit par l'État pour aider les populations. Et l'aide n'est pas forcément directe. Il s'agit de créer les conditions permettant l'approvisionnement régulier des marchés et l'approvisionnement sans grand heurts des marchés. Si le commerçant arrive à vendre, à acheter son produit sur le lieu de production, l'acheminer sur le lieu de vente sans qu'il ne soit victime de tracasseries ou encore de perturbations de la part de certains forces de l'ordre, je crois que cela peut aussi faciliter la chose. Sinon, quelqu'un qui va acheter des oignons sur le marché de Niono, traverser ce goût pour l'amener à Bamako aussi, il faut que ce dernier soit, cette personne soit victime des raclettes de la part des policiers ou s'il faut les déranger ou dans certains cas des gendarmes qui se comportent en vrai douanier. Mmh. Donc les commerçants aussi vont se rabattre sur les pauvres populations qui n'ont absolument rien fait. Malheureusement à Bamako, on n'a pas de champs pour avoir également beaucoup de produits maraîchers. Et là, les gens font les frais du comportement de certains agents de sécurité.
Merci de nous inciter à aller donc vivre à Sékou Bandjougou Danté. Alors, Mame Diara Diop, c'est aussi le mois de Ramadan, c'est aussi une période propice à l'écoulement de denrées avariées sur le marché. Nous parlons là des questions de santé. Quel doit être le rôle de l'État par rapport à ces aspects également?
Bon, l'écoulement des denrées, bon là, ça demande un contrôle vraiment strict. C'est vrai qu'il faudrait aller contrôler les produits. C'est tout ce qui n'est pas fait. Déjà, contrôler les prix et en plus, aller contrôler la qualité des produits. Ailleurs, dans d'autres pays, c'est des choses qui se font. On débarque dans les alimentations chez les commerçants, mais aujourd'hui, c'est difficile. On peut parfois tomber effectivement sur des produits avariés. On sait par exemple que pour le lait, il y a des produits comme les yaourts, il y a une marge de un mois. Mais souvent, certaines personnes continuent de vendre et de consommer, et c'est un vrai danger. Donc ça, c'est, je pense qu'il faut une volonté plus forte encore, il faut une volonté plus forte au niveau de l'État pour contrôler tout ça. Parce que tout à l'heure, Yuba a dit quelque chose, quand on parlait des engrais, quelqu'un il dit qu'est-ce qui n'est pas frelaté dans ce pays. C'est vrai, on consomme des choses, même l'huile. Il y a des huiles frelatées. On parle des engrais aujourd'hui, mais il y a des huiles qui sont frelatées. Il y a des produits qu'on nous vend, qu'on consomme, dont la chaîne n'est pas respectée. Même la viande, la chaîne du froid, de la viande, il y a tellement de choses. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle qui... La traçabilité même d'une viande. Mais il faut dire que là où on vit en Afrique, bon, on s'en remet à Dieu.
Et souvent, il est là pour nous.
Il est là pour nous parce qu'il sait.
Merci beaucoup, Mam. Alors, Yuba, juste avant d'entrer dans ce studio, il y a quelqu'un qui m'expliquait. Vous devez faire un débat sur justement cette question de produits avariés. À Bamako, on ne rencontre plus de carcasses de poulet dans les rues.
Quelle est votre réaction? Non, ça c'est sûr. Mais voilà, ça dit que quand on donne trop de responsabilités à l'État et l'État est déjà défaillant, il faut faire comme moi. D'abord, les trucs qui viennent de boîte, moi je ne mange jamais.
Voilà, les
c'est très clair. Ça dit que les gens peuvent individuellement prendre des initiatives.
Est-ce qu'il vous arrive de payer du poulet?
Non. Pratiquement tout ce que moi je consomme, pratiquement c'est moi-même qui le produis. Ça vous paye. C'est non, mais je ne mange pas.
Même la viande?
Ah oui, même la viande. Je vous assure.
Mais aujourd'hui, quelle doit être la responsabilité de l'État par rapport à cette
question? Les gens doivent mourir de ces choses-là, moi je vais gagner 2 à 3 jours, c'est vous. Parce que je suis un peu en retraite. C'est-à-dire que les trucs qui sont obligatoires, où il n'y a rien à faire, c'est ce que je consomme. Mais s'il y a un truc à faire, un petit truc, moi je le fais pour moi-même.
D'accord. Alors, Yuba reste écolo malgré tout. Alors, Bandjougou Danté, sur les marchés des capitales régionales, il y a beaucoup de produits avariés qui, notamment, quittent Bamako pour aller être écoulés sur ces différents marchés, notamment les foires également. Aujourd'hui, quel contrôle est-ce que l'administration locale a sur ces marchés?
Bon, le comportement de l'administration locale est à l'image de la situation nationale, hein, parce que l'administration locale n'est autre chose que l'émanation de ce qui se décide au niveau national. C'est avec regret quand même, pas plus qu'avant-hier seulement, je n'arrive pas du tout à comprendre que l'on puisse être incapable de manger chez nous du poulet nourri à la graine. Alors que dans un passé récent, on avait nos coqs, on avait nos poulets, mais aujourd'hui on a tout transformé. Finalement, moi, je me demande ce que tout cela va donner après, quoi. Est-ce que nous sommes en train de manger tout ça, là? Bon, qu'est-ce que ça va donner comme conséquence? Qu'est-ce que ça va provoquer comme maladie? Ou qu'est-ce que ça va nous amener comme raisonnement? Est-ce que intellectuellement nous ne serons pas défaillants? Est-ce que mentalement nous serons déjà normaux? Franchement,
Beaucoup de questions.
Je voulais juste ajouter, Bamoussa, on parle de tout ça, nous sommes les privilégiés ici à Bamako. Puisque moi, j'ai eu le truc de faire un détour à comment dirais-je, comment on appelle les mines, là, sur la route de Guinée.
Manantali?
Non, pas Manantali, sur la route de Guinée.
De Guinée?
Oui. J'ai un oncle
Kouré
là-bas. Kouré-Mali? Pas avant d'arriver à Kouré-Mali.
Eh bien, avant d'arriver à Kouré-Mali, voilà. On est arrivé à Ahmed Lekroua, c'est la fin de cette émission. Il est 18h, c'est le jeûne et tout le monde est pressé. Merci beaucoup Youba. Revenez vendredi prochain pour nous parler de cette situation sur la route de Guinée. Je suis Famoussa Sidibé. Les invités, c'était Bandjougou Danté, président de l'URTEL, également directeur de la radio Sania de Ségou, Youba Konaté du Zénith Balé et Mam Diara Diop du journal du Mali.com. Nouhoum Diré était à la technique, Salim Douara à la régie vidéo, Ousmane Diadjé Touré et Ayou Basso étaient à la réalisation. Nous vous disons bon vendredi. À demain pour le journal, mais également restez des nôtres pour nos programmes. À très bientôt.
Le grand dialogue.
Sigika Foba.
Edowani Wamakaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Haloud Mouni.
Chen Nibiru. Sigika Foba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.